dans le prologue du banquet de Platon, l'entrée en scène de Socrate, dans la salle où va se dérouler le banquet offert par Agathon, présente plusieurs éléments textuels qui semblent isoler Socrate, voire l'opposer par moments au reste de l'assemblée. Tout d'abord, il arrive en retard au dîner, puisqu'il a longtemps resté dehors, devant la maison, debout et immobile, à penser. C'est là visiblement une habitude chez lui, comme l'explique le narrateur ici dans le texte, et comme le dira à la fin de ce même banquet, Alcibiade, soulignant à plusieurs reprises le lien entre la position debout de Socrate et son activité de réflexion et de recherche. Ensuite, non seulement donc il arrive en retard, mais lorsque Socrate arrive enfin dans la salle du banquet, il entre très précisément lorsque les autres invités sont déjà au beau milieu du repas, et de surcroît, alors que tout le monde est allongé sur des lits autour de la table pour manger, Socrate, quant à lui, bien qu'Agathon l'invite à s'allonger près de lui, s'assied et au lieu de commencer à manger, commence à parler. L'impression que j'ai toujours eue à la lecture de ce passage est que le choix de Socrate de s'asseoir au lieu de se coucher est délibéré. Pour mieux dire, c'est que délibérément, Platon isole ici la figure de Socrate en associant dans son cas la position assise et la parole, contre la position allongée et la nourriture qui réserve aux autres. Ce n'est en effet que dans un troisième temps, après avoir parlé avec Agathon, que Socrate va enfin s'allonger, lui aussi, et manger comme tout le monde. En ce prologue platonicien, Socrate nous est donc présenté successivement en trois différentes positions qui semblent bien correspondre à trois activités différentes chez lui, debout pour penser, assis pour parler, couché pour manger. C'est cette volonté platonicienne de nous signaler systématiquement les postures de Socrate et de le situer si souvent par ces mêmes postures en dehors de la communauté, ici la communauté conviviale, que je voudrais questionner un peu plus. Certes, ces détails textuels peuvent être considérés comme des simples curiosités, c'est d'ailleurs le cas souvent dans les interprétations, qui confirmeraient donc juste une certaine solitude de Socrate dans le banquet platonicien. Mais je pense qu'ils peuvent aussi être compris comme des indices de la pensée profonde de Platon sur le rôle et la place du philosophe dans les questions de table. Pour aller dans ce sens, je vais quitter le banquet et je vais entrer dans la République de Platon, car c'est là que nous trouvons des informations plus précises et des réflexions plus explicites en la matière. Je vais à la toute fin, revenir rapidement au banquet pour voir comment, à la lumière de ce que Platon dit du fonctionnement de la cité, des banquets dans la cité, nous pouvons relire cette arrivée en solitaire de Socrate chez Agathon. Je partirai donc d'un passage clé du livre 2 de la République, dans lequel Socrate passe de la cité qu'il qualifie de véritable, la Létinée, à celle qu'il qualifie de cité du luxe, Troufosa, avant que celle-ci, la Troufosa, ne se transforme à son tour, grâce à la philosophie, en une belle cité, une Kallipolis, celle qu'on considère généralement, traditionnellement, comme la cité idéale de la République de Platon. Socrate présente ces passages d'un stade à l'autre de la cité comme le résultat d'un raisonnement de type conditionnel qu'il est en train de mener ici sur l'origine et l'essence de la cité. Après avoir donc présupposé sa définition de cité, selon laquelle donc une cité est une cohabitation de plusieurs personnes ayant plusieurs besoins qui s'entraident réciproquement, il part de cette définition, Socrate va ensuite chercher les éléments nécessaires à l'existence donc d'une cité et à sa durée. Les éléments nécessaires pour sa durée. De la cité ainsi définie, il va exposer donc d'abord la composition, l'organisation et ensuite le mode de vie des hommes qui l'habitent. Ces hommes vivent de manière simple et frugale, se limitant aux désirs nécessaires. Ils ont un mode de vie fondé sur la raison, sans luxe. Ils travaillent et se nourrissent essentiellement de pain et de vin. Ils banquettent en se couchant sur des paillasses et chantant des hymnes aux dieux. En évitant ainsi la pauvreté et la guerre, ils vivent en santé et en paix jusqu'à un âge avancé. Cette cité, saine et juste, sera par la suite justement qualifiée de véritable par Socrate. Néanmoins, sous la pression de son interlocuteur, Glaucon, Socrate va abandonner l'examen de celle-ci, de cette cité, donc de ce premier stade, si vous voulez, et va passer, toujours suivant son raisonnement conditionnel, à l'examen d'une cité plus développée et plus confortable, qui représente un deuxième stade et qu'il va qualifier de cité de luxe. c'est justement sur ce moment de passage du mode de vie frugal de la cité véritable à celui de la cité du luxe que je voudrais attirer l'attention. Tout d'abord, voyons la réaction de l'interlocuteur, Glaucon il s'appelle, à la description du mode de vie de la cité véritable que Socrate vient juste de terminer. Et lui, donc Glaucon, « Mes chers Socrate, si tu organisais une cité de cochons, de quoi d'autre les aurais-tu nourris sinon de cela ?»« Mais alors, demandai-je, comment faut-il faire, cher Glaucon ?»« Comme il est d'usage, dit-il, je pense que ces hommes, pour ne pas être dans l'inconfort, s'étendront sur des lits, mangeront à des tables, de mes cuisinés aussi, exactement comme ceux qu'ont également les gens d'aujourd'hui, et des desserts. » Donc les toutes premières exigences de Glaucon sont claires et significativement concernent ce qui devait être vraisemblablement les éléments constitutifs d'un banquet de son époque, des lits, clinai, des tables, trapezai et des mets, justement les opsa de tout à l'heure. Juste un mot justement sur ce terme opsa qui est plus problématique à traduire que les lits et les tables. Deux termes, donc comme je le disais tout à l'heure dans ma question à Christine, deux termes apparaissent régulièrement pour désigner les éléments constitutifs du menu, enfin en tout cas les éléments solides du menu de l'homme grec, le sitos et l'opson. Le premier que l'on peut traduire par pain, plus rapidement, représente donc l'aliment de base, entendu comme ce qui est nécessaire à la vie. Le second, l'opson, est en revanche tout aliment qui s'ajoute au pain, je disais en italien on a le mot, en français non, comme panatico, pour lui donner du goût, impliquant donc immédiatement du plaisir à manger, et pas que la pure nécessité. Ce qui peut aller donc, c'est pourquoi la traduction n'est pas évidente, ça peut aller du simple assaisonnement, le sel, les olives, le fromage, jusqu'aux mets les plus exquis du repas, comme le poisson justement en graisse. Je reviens au texte. C'est très précisément la possibilité de s'allonger sur des lits confortables, de manger à des tables, de véritables mets, la principale revendication de Glaucon face à l'austérité de Socrate. Et Socrate, sous la pression de Glaucon, accepte de considérer aussi ces nouvelles exigences en mettant de côté l'examen de la cité véritable pour examiner le cas donc d'une cité qu'il va définir comme malade. Voyons le texte, je le lis rapidement. « Soit, répondis-je, je comprends, à ce qui semble, nous n'examinons pas seulement comment on est une cité, mais une cité qui vit dans le luxe, et cette façon n'est probablement pas si mal. » Je saute un peu. La cité véritable me semble être celle que nous avons décrite comme une cité en bonne santé, mais si vous le souhaitez, considérons aussi une cité atteinte d'inflammation, rien ne l'empêche, car ces choses, à ce qui paraît, ne suffiront pas à certains, tisine en grec, ni ce régime, mais il y aura en plus des lits et de tables et les autres ustensiles et certainement de mets cuisinés et des onguents et des parfums et des courtisanes et des friandises et toutes sortes de choses de ce genre. Et puis en particulier, on mettra plus au rang des nécessités les choses dont j'ai parlé au départ, maison, manteau et chaussures, mais on fera aussi intervenir la peinture, la variété de couleurs, on se procurera de l'or, de l'ivoire et toutes les choses de ce genre, n'est-ce pas ? Oui. Il n'est fait aucun doute, aux yeux de Platon, ces trois éléments qui sont clinai, trapezai et opsa, donc les lits, les tables et les mets, marquent le moment de passage d'un stade de la cité à l'autre. Présentés dans le même ordre d'ailleurs dans lequel les avait évoqués Glaucon, ces trois éléments sont dans la liste dressée par Socrate les tout premiers plaisirs, non plus nécessaires mais superflus, que certains hommes, pas tous, prétendront. Et en tant que tels, ces éléments constituent les premiers ferments de la corruption qui va désormais infiltrer la cité platonicienne et la condamner en raison de ses excès à la maladie. De fait, dans la description du mode de vie de la première cité, la cité véritable, ces trois éléments n'apparaissent pas, du moins pas avec le sens que leur donne Glaucon. Si je reprends donc le texte 4 que vous aviez, si on reprend le texte, on observe tout d'abord que ces hommes de la première cité se nourrissent essentiellement de sitos, justement, pas d'opson, l'aliment de base, donc ici décliné en pain et fougas. Un sitos accompagné de vin, certes, mais sans opson. Comme le remarque justement Glaucon dans sa réaction, dans son, donc sans véritable mets. C'est sans mets que tu les fais banqueter. Ce n'est qu'après cette remarque de Glaucon qu'une forme d'opson est évoquée par Socrate, mais une forme minimale, vous regardez, simple assaisonnement de pain, à savoir du sel, des olives, du fromage, des oignons, des légumes, quelques desserts à base de figues, pois chiches, fèves, et puis des myrtes et des glands. Tu as raison, j'avais oublié, ils auront aussi des mets, etc. rien de quoi faire une indigestion, n'est-ce pas? Et surtout, rien de quoi satisfaire les désirs de certains hommes de la cité, car certains hommes, dont visiblement fait partie Glaucon, l'interlocuteur, voudront des vrais opsas, entendus cette fois-ci, comme on a vu, sans aucune équivoque, comme de vrais plats cuisinés. Donc, ensuite, toujours les hommes de la cité véritable. Si un opsan minimal est malgré tout admis, fait son entrée dans la cité véritable, en revanche, dans leur banquet, vous regardez, les hommes véritables ne se servent pas du tout de lits, de tables, de clinailles. Ils s'allongent tout simplement sur des paillasses, des stibades en grec, couvertes de smilax et de myrte. Et enfin, si rien n'est dit au sujet des tables, dont se servent les hommes véritables pour manger, tout laisse à penser qu'ayant des nourritures réduites en quantité et en variété, ces hommes n'ont aucun besoin de véritables trapezzas, à ces grandes tables à quatre pieds, nécessaires en revanche dans la cité du luxe pour disposer les grandes variétés et quantités de mets et de desserts, ainsi que des onguents, les parfums et les friandises. Cette multiplicité de plats et d'accessoires étant absent de la cité véritable, nous pouvons supposer que les trapezzas aussi, ils sont absentes. D'autant plus qu'il n'y a pas non plus des lits de table qui iraient avec. Des lits, en revanche, tout à fait nécessaires dans la cité du luxe pour mieux profiter également des courtisanes qui font partie avec les friandises de la liste de plaisirs énumérée par Socrate. Compte tenu de cela, je suis persuadée que ce sont bel et bien les trapezzas, les clinailles et les lopsones plus élaborés qui vont changer les choses dans la cité à cause donc des nombreux autres plaisirs que leur entrée en scène va entraîner. À partir du moment où une place est faite à cette triade du mal, la cité qui a maintenant une vie plus riche et confortable, mais qui ne mettra pas un frein à ses désirs, se transformera en une cité du luxe, une troufosa donc, polis, en glissant inexorablement vers l'excès et vers la maladie et la guerre. Alors, si telle est la destinée de la cité du luxe, et s'il est vrai que les lits et les tables en particulier font toute la première apparition à ce stade précis de la cité, lorsqu'elle accède au confort, une question s'impose, que se passe-t-il par la suite dans la belle cité, la Callipolis, c'est-à-dire dans la cité guérie grâce à la cure thérapeutique préconisée par Socrate? Car Socrate, tel un médecin, va traiter cette cité du luxe, malade de son propre luxe, par l'éducation philosophique et va la rendre donc de nouveau belle et juste et saine. Or, à ce troisième stade et dernier stade de la cité, qui est celui donc de la cité purifiée, qu'en est-il des lits et de tables de banquet? Là encore, il ne faut pas penser que la présence ou non des lits et des tables de banquet dans la belle cité soit un détail de décor. Ces éléments sont en effet représentatifs d'une certaine culture matérielle, celle de l'Athènes de l'époque, qui n'est sans doute pas celle que souhaite le Socrate platonicien. C'est ce contraste qu'il faut relever. C'est pourquoi l'intervention de Glaucon n'est pas à lire comme une simple vision plus civilisée ou plus réaliste de la nature humaine. Et les éléments de la culture matérielle qu'il introduit ne sont pas donc à interpréter comme des acquis de civilisation que la Callipolis ne remettrait pas en discussion. Pour s'en convaincre, allons voir donc les deux passages de la République, très bref passage, où il est clairement question des repas de la belle cité. Le premier se trouve à la fin du livre 3, après avoir largement exposé le programme éducatif que devront suivre les futurs gardiens philosophes, puisque cette cité va guérir grâce à une nouvelle classe les gardiens philosophes, hein, qui seront bien éduqués pour surveiller la cité. Donc, une fois exposé le programme éducatif de ces gardiens philosophes de la cité, Socrate passe à considérer la façon dont ils doivent vivre, ces pauvres gardiens philosophes, et comment ils doivent habiter. Et alors, il y a toute une série de choses. Tout d'abord, personne ne doit posséder de biens privés, ce n'est pas de nécessité absolue. Ensuite, personne ne doit avoir de maison de cellier, dans lequel, hein. Encore, quant aux choses nécessaires dont ont besoin ces hommes, il faut qu'ils reçoivent de la part des autres citoyens un salaire pour leur garde, tel qu'ils aient ni un surplus ni un manque dans l'année. Puis, il faut qu'ils vivent en communauté, en allant habituellement au repas en commun. Est-ce ce qu'il y a? Exactement comme s'ils étaient dans un campement militaire. Les prescriptions qui apparaissent ici au livre 3 sur le mode de vie des gardiens, qui sont juste annoncées ici, sont reprises après, détaillées au livre 5. C'est là que se trouve la deuxième et le second et dernier passage évoquant la question des repas de la Callipolis. Malgré la grande attention que ce livre saint consacre aux conditions particulières de l'éducation des gardiens, la question des repas est, quant à elle, évoquée une fois de plus, très rapidement, juste pour préciser que les femmes aussi, puisqu'elles pourront également devenir gardiennes, pourront participer donc à ces repas en commun. Voici le passage. « Toi donc, qui es pour eux le législateur, comme tu as choisi les hommes, de la même manière tu choisiras aussi les femmes et les attribueras autant que possible en fonction d'une affinité naturelle. Et cela, puisqu'ils ont des maisons et des repas communs, suscitia koina, et que personne ne possède rien de tout cela à titre privé, seront alors ensemble et mélangés ensemble dans des gymnases et les restes de leur formation. Ils seront poussés par une nécessité, je crois, naturelle, à s'unir les uns aux autres. » Aucun détail supplémentaire n'est donné sur ce repas en commun des gardiens et des gardiennes de la cité. Dans les deux passages, c'est d'une manière très rapide que Socrate évoque le sujet. Or, si nous pensons à l'importance que Glaucon avait donnée à cette institution, le banquet, en mettant en avant sur la liste les éléments à ses yeux nécessaires pour rendre un banquet confortable, on ne peut pas s'empêcher de lire par contraste cette nonchalance socratique comme un signe d'indifférence à l'égard de ces mêmes éléments. Le repas en commun ont leur importance dans la cité, mais certainement pas pour les mêmes raisons pour lesquelles Glaucon défend les banquets de son temps. Alors, pour tenter de se faire une idée plus précise des modalités des repas des gardiens, en dépit du fait que Platon ne nous dit pas grand-chose, il faut s'intéresser au terme « syssitia », « syssiti », donc lui-même, qui apparaît donc dans ces deux passages. Ce terme désigne donc la pratique de repas pris habituellement en commun par les citoyens tant à Sparte qu'en Crète. D'abord, sans pouvoir l'assurer avec certitude, je me demande si en évoquant les syssiti, Platon, au même temps qu'il se réfère à la pratique, évidemment, crétoise et lacédémonienne, ne joue pas, un peu, il aime beaucoup ça, sur le terme sitos, qui compose justement le mot, écartant ainsi une fois pour toutes de la cité l'opson, l'élément de la triade revendiquée par Glaucon. Bon, ça c'est une hypothèse linguistique un peu farfelue. De plus, rien ne dit que ce repas commun auquel participe le gardien de la belle cité implique l'usage des lits et de tables. Au contraire, quant à la posture des convives dans les syssitis crétoises et lacédémoniennes, je pars sur l'avis des spécialistes de Sparte, quelques textes semblent plutôt témoigner du fait que ceux-ci pouvaient aussi être assis. Voyons cela. D'abord, concernant les repas en commun chez les Crétois. Les témoignages de deux historiens, cités par Athénée et de Naucratis, au livre 4, sont très éclairants. Dans le premier, qui est un fragment de l'historien d'Osiade, que je ne vous ai pas donné, nous trouvons le verbe proskatizo, s'asseoir près d'eux, s'asseoir devant, explicitement attribué aux étrangers qui étaient accueillis dans ces repas. Et quant aux autres commensaux, les Crétois donc, ils sont désignés par l'expression « oi kataten koinen trapezan », qui peut être traduit tout simplement par « ceux qui se trouvent devant la même table », qui peut donc très bien indiquer des convives assis. Mais là, on n'a pas trop de certitude. En revanche, le deuxième témoignage, qui est là, le texte 9, est quant à lui très clair sur la position de convives crétois, et il est présenté par Athénée juste après celui de Dosiade, qui est plus incertain, mais comme une confirmation de celui-ci. Il s'agit d'un fragment d'un autre historien qui s'appelle Pyrgion. Voici le début, donc vous avez juste le début. Pyrgion, dans les troisième livres des traditions crétoises, dit « Pendant les repas en commun, les Crétois mangeaient ensemble en étant assis, katemenoi, et les plus jeunes d'entre eux étaient debout faisant l'office des serviteurs. » Donc aucune ambiguïté, d'après Pyrgion du moins, les Crétois étaient bien assis au cours de leur syssiti. Venons ensuite au repas en commun à Sparte. D'après quelques témoignages, il semble que les Lacédémoniens mangeaient assis ou allongés, mais alors pas sur des lits. D'abord, un passage de Xénophon, que je ne vous ai pas donné non plus, dans la République des Lacédémoniens. Xénophon dit que par déférence au roi, tout le monde se lève de son siège et drap devant lui. On peut supposer qu'il s'agit d'un siège posé devant une table à manger, puisque cette remarque s'insère justement dans la description des repas publics que le roi de Sparte pouvait prendre sous une tente avec les hommes de la cité. Ensuite et surtout, le témoignage numéro 10, un témoignage qui se trouve aussi dans les Deipnos Sophistes d'Athénée, dans ce même livre 4 d'ailleurs, Athénée suggère que le passage à Sparte d'une vie austère et disciplinée à une vie dissolue et corrompue est marqué tout d'abord par l'entrée en scène, dans leur repas commun, de divans particulièrement luxueux et confortables. C'est à la suite d'une longue citation concernant le traditionnel mode de vie austère de Sparte qu'Athénée introduit un témoignage de Philarque illustrant justement le changement de vie et la corruption morale des Lacédémoniens, surtout de leur roi, à partir de la fin du IIIe siècle. Voici le texte. Mais par la suite, les Lacédémoniens abandonnèrent l'austérité d'un tel mode de vie et se laissèrent aller au luxe. Philarque, par exemple, dans le livre 25 des Histoires, écrit à leur propos ce que suit. Les Lacédémoniens n'allaient pas au repas en commun suivant l'usage traditionnel, mais quand ils s'y assistaient, pour ceux qui se disposaient tout autour de la table, on préparait des petits plats, conformément à la loi, et en revanche, on arrangeait avec soin pour eux des lits étendus, stromnai, d'une grandeur si somptueuse, d'une variété si exceptionnelle que certains étrangers qui étaient accueillis hésitaient à appuyer leurs coudes sur les coussins. Au contraire, les gens d'auparavant, les anciens, résistaient patiemment pendant toute la durée de la réunion sur un petit lit tout dégarni. De plus, au luxe évoqué précédemment, s'est ajoutée l'ostentation d'un grand nombre de coupes, la présentation de nourriture préparée de toutes sortes de manières, mais un cœur, de parfums insolites, ainsi que des vins et des desserts. On dirait bien la liste des plaisirs superflus de la cité du luxe énumérée par Socrate au deuxième livre de la République. Et là aussi, exactement comme dans la République, c'est bien la présence de ces grands lits moelleux, somptueusement arrangés, que ouvre la voie au luxe et à la décadence des lacédémoniens. Très clairement, c'est moins le fait de se coucher pendant le banquet que le fait de se coucher sur des lits confortables qui marque le passage d'un mode de vie à l'autre. Car même si auparavant aussi les Lacédémoniens avaient dans leur city des lits, il est clair que ceux-ci étaient inconfortables. Alors le terme, justement j'attire l'attention, le terme employé pour désigner les premiers lits des pauvres Spartiates est « clinterion hein, », qui est un diminutif de « clinter » qui peut désigner le lit mais aussi le cercueil. Qui plus est, un clinterion psilon, c'est-à-dire dur, dégarni, mettant donc à dure épreuve la fameuse endurance spartiate. Manifestement, donc, ces tout petits lits, cercueils, sans couverture, dans les six cities traditionnelles des Lacédémoniens, rassemblaient plutôt à des bancs et ne présentaient aucun danger pour leur célèbre austérité. Et donc, même s'ils se couchaient devant des tables au cours de leur city traditionnelle, ce n'était visiblement pas pour trouver sur ces lits un grand confort ou du plaisir. Inversement, c'est bien pour le confort de ce nouveau grand lit somptueux et moelleux dans leur salle à manger qui change en profondeur le caractère originaire des austères et pas des spartiates. Et d'ailleurs, c'est le tout dernier texte, il est significatif qu'Athénée lui-même, dans les Deipnosophistes, condamne à plusieurs reprises comme symptomatique de la mollesse et de la décadence d'une vie de plaisir, que ce soit d'ailleurs chez les Grecs comme chez les Romains, le fait de se coucher sur des lits au cours des banquets. Et il y oppose par contraste la simplicité du temps passé, et notamment des sociétés héroïques décrites par Homère, où les héros, ainsi que les dieux, étaient assis et se servaient tout seuls. Le changement de position et surtout la présence des lits de table, aux yeux d'Athénée, sont le symptôme d'une maladie. Je vous ai pris un texte qui est très clair en ce sens. Cette pratique de manger assis demeure encore aujourd'hui chez certains Grecs, mais lorsqu'ils ont commencé à vivre dans le luxe et dans la mollesse, ils se sont précipités des sièges au lit, ayant pris comme allié la détente et l'aisance, à partir de ce moment-là, ils s'adonnèrent à l'ivresse avec abandon et de façon désordonnée, tout l'équipement du banquet les conduisant sur la route des plaisirs. Encore une fois, les lits sont là pour marquer le passage vers la décadence, ils sont pour ainsi dire l'élément déclencheur de la corruption. Le banquet couché qui implique le luxe du lit convivial est avant tout un signe de richesse et de distinction sociale, alors que le banquet assis est la marque d'une société héroïque et militaire. Car dans le campement militaire, les soldats qui participent au repas commun peuvent être tout simplement assis par terre, comme le dit Hérodote, couchés sous la même tente, comme le dit Xénophon, mais certainement pas confortablement allongés sur des lits d'étable. En définitive, pour revenir une dernière fois à la République, aucun élément dans le texte ne me permet de dire que les gardiens philosophes se servent de ce genre de lit de table que revendique Glaucon. Reste à savoir si dans leur city les philosophes s'assoient sur des sièges, comme les Crétois et les Romériques, s'ils se couchent, et dans ce cas s'ils se couchent sur des simples bancs, comme les Spartiates, ou sur des paillasses, comme les hommes de la cité véritable, ou simplement par terre, comme les soldats dans les campements. Pour conclure, donc, je reviens vite au banquet. duquel donc toute cette histoire d'Élie est partie. Il ne fait pas de doute, le confort, le bien-être de la cité du luxe que sont ceux de la civilisation que l'Athènes du temps de Platon incarnait si bien, comme le disait Glaucon, hein, les hommes de la cité doivent pouvoir jouir de lits, tables et mets comme ceux des gens d'aujourd'hui, justement. Or, si le lit des banquets avec les tables et les mets qui vont avec symbolise aux yeux de Platon une cité de la décadence, et si dans la cité guérie, grâce à la philosophie, ces éléments ne s'imposent plus comme des évidences, que représente alors la position de ce Socrate dans ce banquet de luxe, qu'est pourtant le banquet d'Agathon, décrit par Platon? Mon hypothèse, que je vous laisse juger, puisqu'il vit dans une cité du luxe, Socrate, et parmi des hommes riches qui bénéficient de ce luxe, la seule chose que peut faire Socrate est de marquer sa différence en tant qu'homme, je dirais, purifié par la philosophie, en ne se couchant pas, du moins pas tout de suite, pour manger avec les autres, mais en se mettant tout d'abord assis pour parler. Et justement, dans cette posture assise, Socrate serait, à mon sens, la parfaite illustration de ce gardien philosophe de la cité, de sa république. Je vous remercie. Merci.